Chapitre 27. Always on my mind. Aimer quelqu'un, c'est aussi aimer le bonheur de quelqu'un. Françoise Sagan. Billy dormait encore. Milo était parti prévenir Carole et nous avions prévu de nous retrouver 2 heures plus tard à la bibliothèque de l'hôtel pour faire quelques recherches et élaborer notre plan de bataille. Alors que je traversais le hall, je tombais sur Aurore qui réglait sa note à la réception. Cheveux faussement décoiffés, lunettes de soleil de star, elle portait, dans un style bohème et rétro, une robe courte, un perfecto, des bottines à talons hauts et un sac de voyage vintage. Sur la plupart des femmes, l'effet aurait été too much, mais sur elle, c'était impeccable. « Tu t'en vas ?»«
J'ai un concert à Tokyo demain soir. »
« Au Kiyoi Hall ?» demandai-je, moi-même surpris de me rappeler le nom de l'endroit où elle avait joué lorsque je l'avais accompagnée dans sa tournée au Japon. Son regard s'illumina.
« Tu te souviens de cette vieille Plymouth Fury que tu avais louée ? On avait galéré pour trouver la salle et je suis arrivé 3 minutes avant le début du récital. J'ai dû reprendre mon souffle sur la scène tellement j'avais couru. »
« Pourtant, tu avais bien joué. »
« Et après le concert, on avait roulé toute la nuit pour aller voir les enfers bouillants de Beppu, les sources d'eau chaude sur l'île volcanique de Kyushu. »
L'évocation de cet épisode nous plongea tous les deux dans la nostalgie. Oui, nous avions aussi connu des moments de bonheur et de légèreté, et ils n'étaient pas si loin. Aurore rompit le silence, mi-gênant, mi-charmant, en s'excusant pour le comportement de Raphaël Barros. Elle m'avait appelé cette nuit pour prendre des nouvelles, mais je n'étais pas dans ma chambre. Pendant qu'un garçon d'étage s'occupait de ses valises, je lui racontais brièvement ce qui était arrivé à Billy. Elle m'écouta avec intérêt. Je savais que sa mère était morte à 39 ans d'un cancer du sein dépisté tardivement. Depuis ce décès brutal, elle était devenue un peu hypochondriaque, en tout cas très soucieuse de ce qui touchait à sa santé et à celle de ses proches. « Ça a l'air vraiment sérieux. Emmène-la très rapidement voir un médecin compétent. Si tu veux, je peux te conseiller quelqu'un. »
« Qui ?»
Le professeur Jean-Baptiste Clouzot, un diagnosticien hors pair, une sorte de Dr House français. Il est chef de service en cardio à Paris et consacre l'essentiel de son temps à mettre au point un cœur entièrement artificiel. Mais si tu vas le voir de ma part, il te recevra.
C'est un ancien amant ?
Elle leva les yeux au ciel. C'est un grand mélomane qui vient souvent assister à mes concerts à Paris. Et si tu le rencontres, tu verras que physiquement ce n'est pas Hugh Laurie. Mais c'est un génie.
Tout en parlant, elle avait activé son BlackBerry et recherchait parmi ses contacts le numéro du médecin.
« Je te le transfère », dit-elle en montant dans sa voiture.
Un employé referma sa portière et je regardais la berline s'éloigner en direction du portail massif qui gardait l'entrée du complexe. Pourtant, après une 50aine de mètres, le taxi s'arrêta au milieu de l'allée et Aurore courut vers moi pour me voler un baiser furtif. Avant de repartir, elle sortit de sa poche son baladeur numérique et me l'abandonna après avoir déposé les écouteurs sur mes oreilles. Je gardais le goût de sa langue sur mes lèvres et dans ma tête la musique et les paroles de la chanson qu'elle avait programmée. Le plus beau titre d'Elvis que je lui avais fait découvrir lorsque nous étions suffisamment amoureux pour nous offrir des chansons. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. You were always on my mind. You were always on my mind. Peut-être que je ne t'ai pas toujours traité aussi bien que j'aurais dû. Peut-être que je ne t'ai pas aimé aussi souvent que j'aurais pu. Mais je pensais tout le temps à toi. Je pensais tout le temps à toi.
Chapitre 28. Dans l'épreuve. Le lecteur peut être considéré comme le personnage principal du roman, à égalité avec l'auteur. Sans lui, rien ne se fait. Elsa Triolet. Comment un hôtel pouvait-il posséder une bibliothèque aussi somptueuse ? Visiblement, la générosité du riche émir n'avait pas profité qu'à la clinique. Ce qui frappait le plus, c'était le côté anachronique et élitiste de l'endroit. On se serait cru dans la salle de lecture d'une prestigieuse université anglo-saxonne et non dans la bibliothèque d'un club de vacances. Des milliers d'ouvrages élégamment reliés garnissaient des étagères ceinturées de colonnes corinthiennes.
Dans ce cadre feutré et intimiste, les lourdes portes sculptées, les bustes en marbre et les boiseries anciennes vous projetaient quelques siècles plus tôt. Seule concession à la modernité, les ordinateurs dernier modèle encastrés dans des meubles en ronces de noyer. J'aurais adoré pouvoir travailler dans un tel endroit lorsque j'étais plus jeune. Chez moi, il n'y avait pas de bureau. Je faisais mes devoirs enfermés dans les toilettes, une planche sur les genoux en guise de bureau et un casque de chantier sur la tête pour étouffer les cris des voisins. Avec ses lunettes rondes, son pull en mohair et sa jupe écossaise, même la bibliothécaire donnait l'impression d'avoir été téléportée d'un autre univers. Alors que je lui indiquais la liste des ouvrages que je désirais consulter, elle m'avoua que j'étais son premier lecteur de la journée. En vacances, les clients de l'hôtel préfèrent généralement la plage à la lecture de Georg Wilhelm Friedrich Hegel. J'esquissais un sourire, tandis qu'elle me tendait une pile de livres agrémentée d'un mug de chocolat chaud aux épices mexicaines. Pour lire à la lumière naturelle, je m'installai près d'une des grandes fenêtres, à côté d'un globe céleste de Coronelli, et me mis au travail sans tarder. L'atmosphère était propice à l'étude. Le silence n'était troublé que par le bruissement des pages tournées et le doux glissement de mon stylo sur le papier. Sur la table devant moi, j'avais ouvert plusieurs ouvrages de référence que j'avais décortiqués lors de mes études, dont « Qu'est-ce que la littérature ?» de Jean-Paul Sartre, « Lector in fabula » d'Umberto Eco et le « Dictionnaire philosophique » de Voltaire. En 2 heures, j'avais pris 10 de pages de notes. J'étais dans mon élément, entouré de livres, dans un monde de quiétude et de réflexion. Je me sentais à nouveau professeur de littérature.
« Waouh ! On se croirait à la fac ?»
s'écria Milou en débarquant dans l'auguste salle, comme un chien dans un jeu de quilles. Il posa son sac sur l'un des fauteuils Charleston et se pencha sur mon épaule.
« Alors, tu trouves quelque chose ?»«
J'ai peut-être un plan de bataille, à condition que tu acceptes de m'aider. »«
Bien sûr que je vais t'aider !»«
Alors, il faut qu'on se répartisse les rôles, » dis-je en refermant mon stylo. « Toi, tu retournes à Los Angeles pour essayer de retrouver le dernier exemplaire défectueux. Je sais que c'est mission impossible, mais s'il est détruit, Billy mourra, c'est une certitude.
Et toi ?
Moi, je vais l'emmener à Paris consulter le médecin que m'a conseillé Aurore pour tenter au moins d'enrayer la maladie, mais surtout. » Je rassemblais mes notes pour être le plus clair dans mon explication.
« Surtout ?
Il faut que j'écrive le 3e tome de mon roman pour renvoyer Billy dans le monde de l'imaginaire. » Milo fronça les sourcils.
« Je ne comprends pas très bien en quoi écrire un livre va la ramener concrètement dans son univers. »
J'attrapai mon calepin et, à la manière du docteur Philipson, j'essayai de rassembler les points importants de ma déduction. Le monde réel est celui dans lequel nous vivons, toi, Carole et moi. C'est la vraie vie, le champ dans lequel nous pouvons agir et que nous partageons avec nos semblables, les êtres humains.
Jusque-là, on est d'accord.
À l'opposé, le monde imaginaire est celui de la fiction et de la rêverie. Il reflète la subjectivité de chaque lecteur. C'est là qu'évoluait Billy, expliquai-je en faisant suivre mon propos de quelques notes sommaires.
Continue, réclama Milo.
Comme tu l'as dit toi-même, Billy a pu franchir la frontière séparant les deux mondes à cause d'un accident industriel, l'impression défectueuse de 100 000 exemplaires de mon livre. C'est ce que tu as appelé la porte d'entrée.
Approuva-t-il.
Donc, à présent, nous nous trouvons avec Billy en train de dépérir dans un environnement qui n'est pas le sien.
Et le seul moyen de la sauver, rebondit-il, c'est de retrouver l'ouvrage défectueux pour éviter qu'elle ne meure dans la vraie vie.
Et la renvoyer dans le monde de la fiction en écrivant le 3e tome de mon livre. C'est sa porte de sortie du monde réel. Milo regardait mon schéma avec intérêt, mais je voyais bien que quelque chose le gênait. Tu ne piches toujours pas pourquoi l'écriture du 3e tome pourrait lui permettre de repartir, c'est ça ?
Pas concrètement.
Bon, ok, tu vas saisir. Pour toi, qui crée le monde imaginaire ?
C'est toi ? Enfin, je veux dire, c'est l'écrivain ?
Oui, mais pas tout seul. Moi, je ne fais que la moitié du travail.
Et qui fait l'autre moitié ?
Le lecteur. Il me dévisagea, l'air encore plus perplexe. Regarde ce qu'écrivait Voltaire en 1764. Dis-je en lui donnant mes notes. Il se pencha sur mes feuilles et lut à haute voix.
« Les livres les plus utiles sont ceux dont les lecteurs font eux-mêmes la moitié. »
Je me levai de ma chaise et déroulai mon exposé avec conviction. « Au fond, c'est quoi un livre, Milo ?»«
De simples lettres alignées dans un certain ordre sur du papier.
Il ne suffit pas d'avoir mis le point final à un récit pour le faire exister. J'ai dans mes tiroirs quelques débuts de manuscrits non publiés, mais je les considère comme des histoires mortes parce que personne n'a jamais jeté un œil dessus. Un livre ne prend corps que par la lecture. C'est le lecteur qui lui donne vie, en composant des images qui vont créer ce monde imaginaire dans lequel évoluent les personnages. Notre conversation fut interrompue par la bibliothécaire sous-employée qui proposa à Milo une tasse de son chocolat aux épices. Mon ami prit une gorgée de cacao avant de remarquer. « Chaque fois qu'un de tes livres sort en librairie et qu'il commence à vivre sa vie, tu me dis toujours qu'il ne t'appartient plus vraiment. » « Exact. Il appartient au lecteur qui prend le relais en s'appropriant les personnages et en les faisant vivre dans sa tête. Parfois, il interprète même à sa façon certains passages, leur donnant un sens qui n'était pas celui que j'avais en tête au départ, mais ça fait partie du jeu. » Milo m'écoutait avec attention, tout en griffonnant sur mon bloc. 1. L'auteur écrit le livre. 2. Le lecteur lit le livre. 1 plus 2 égale création du monde imaginaire. Je croyais dur comme fer à cette théorie. J'avais toujours pensé qu'un ouvrage n'existait vraiment qu'à travers sa relation avec le lecteur. Moi-même, depuis que j'étais en âge de lire, j'avais toujours cherché à m'enfoncer le plus loin possible dans l'imaginaire des romans qui me plaisaient, anticipant, échafaudant mille hypothèses, cherchant toujours à avoir un coup d'avance sur l'auteur et prolongeant même dans ma tête l'histoire des personnages bien après avoir tourné la dernière page. Au-delà des mots imprimés, c'est l'imagination du lecteur qui transcendait le texte et permettait à l'histoire d'exister pleinement. Donc, si j'ai bien compris, pour toi, l'écrivain et le lecteur coopèrent pour créer le monde imaginaire. Ce n'est pas moi qui le dis, Milo. C'est Umberto Eco. C'est Jean-Paul Sartre, rétorquai-je en lui tendant le livre ouvert dans lequel j'avais souligné cette phrase. La lecture est un pacte de générosité entre l'auteur et le lecteur. Chacun fait confiance à l'autre, chacun compte sur l'autre. Mais concrètement ? Concrètement, je vais commencer à rédiger mon nouveau roman, mais ce n'est que lorsque les premiers lecteurs le découvriront que le monde imaginaire prendra corps et que Billy disparaîtra du monde réel pour retrouver la vie qui était la sienne dans la fiction. « Alors je n'ai pas une seconde à perdre », dit-il en s'installant devant l'écran d'un ordinateur. « Je dois à tout prix retrouver le dernier livre défectueux. C'est le seul moyen de maintenir Billy en vie suffisamment longtemps pour te laisser le temps d'écrire un nouveau roman. » Il se connecta au site de Mexicana Airlines. « Il y a un vol pour Los Angeles dans 2 heures. En partant maintenant, je serai à MacArthur Park dans la soirée. » « Qu'est-ce que tu vas faire là-bas ? » « Si tu comptes emmener Billy à Paris, il lui faut très vite un faux passeport. J'ai gardé quelques contacts qui pourront nous être utiles. » « Et ta voiture ?» Il ouvrit son sac besace et en sortit plusieurs liasses de billets qu'il divisa en 2 parts égales. « Un homme de main de Yoshida Mitsuko est venu la chercher ce matin. C'est tout ce que j'ai pu en obtenir, mais ça nous aidera à tenir quelques semaines. Après ça, on aura raclé tous les fonds de tiroir. Oui. Et avec ce qu'on doit au fisc, je te signale qu'on est au moins endetté pour 20 ans. Ça, tu avais oublié de me le dire, non? Je croyais que tu avais compris. J'essayais de dédramatiser la situation. On va essayer de sauver une vie, c'est la chose la plus noble qui soit, non? J'en suis sûr, répondit-il. Mais cette fille, Billy, elle en vaut la peine? Je crois qu'elle est des nôtres, dis-je en cherchant mes mots. Je pense qu'elle pourrait appartenir à notre famille, celle que l'on s'est choisie. Toi, Carole et moi. Parce que je sais qu'au fond, elle n'est pas très différente de nous. Sous sa carapace, c'est quelqu'un de sensible, de généreux. Une grande gueule au cœur pur, déjà bien cabossé par la vie. Nous nous étreignîmes une dernière fois. Il était déjà sur le seuil de la porte lorsqu'il se retourna vers moi. Ce nouveau roman, tu vas arriver à l'écrire ? Je croyais que tu ne pouvais plus aligner 3 mots. Je regardais le ciel à travers la fenêtre. De gros nuages gris bouchaient l'horizon, donnant à l'endroit des airs de campagne anglaise. « Ai-je vraiment le choix ? » demandai-je en refermant mon calepin.